Donc ce soir, nous allons passer 3 quarts d'heure en compagnie de Sainte-Geneviève. Alors je prends cette optique-là, puisque le but de cette conférence, c'est de vous montrer que une éminente personne du 5e siècle est étonnamment contemporaine. Elle pourrait être notre sœur au 21e siècle. Donc, je vais essayer de vous faire enfin, je vais vous présenter cette personne, donc Sainte Geneviève, tout d'abord dans le contexte historique, qui est un peu compliqué, mais qui est essentiel si on veut comprendre son rôle. Ensuite, je parlerai de la personnalité de Sainte Geneviève proprement dite. Et puis, je terminerai par le sujet phare qui est Sainte Geneviève et Paris. Voilà, puisque c'est quand même, comme elle était la patronne de Paris. Et donc, c'est la patronne de Paris, et donc du coup, c'est quand même, elle a eu son impact dans la capitale jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un peu ces trois parties qu'on va voir ensemble. Alors, tout d'abord, elle est, comment dire, elle est, est-ce, en ce qui concerne Sainte-Geneviève. C'est que c'est quelqu'un qui nous intéresse parce que c'est une femme qui est à la fois une femme, une religieuse et un personnage politique. Tout ça au 5e siècle. Et donc je pense qu'au 21e siècle, dans un groupe, dans une spiritualité qui est touchée, qui est sensible aux politiques, elle n'a que la meilleure place. Voilà. Alors, le contexte historique, nous allons faire une plongée. Je vous ai donné cette feuille avec des repères chronologiques. Nous allons faire une plongée dans le 5e siècle. Alors, 5e siècle, c'est-à-dire que Sainte Geneviève est née à Nanterre, en vers à peu près 420, hein, parce qu'à ces dates-là, on ne connaît pas forcément exactement toutes les dates précises. Elle est née à Nanterre vers 420. Et elle va décéder à Paris entre, alors, soit 502, soit 512, encore une fois, parce que c'est assez fou. Et elle va vivre donc plus de 80 ans, ce qui va étonner beaucoup, même à cette époque-là, même si, en règle générale, l'espérance de vie, souvent, est un peu faussée, dans la mesure où, à partir du moment où un enfant avait passé les 5 premières années où il pouvait se défendre, où il avait résisté à toutes les maladies, il avait plus de chances de vivre plus longtemps que maintenant. Et puis, mais néanmoins, pour compenser cela dans un mauvais sens, il y avait quand même une brutalité, une violence. Qui faisait qu'il y avait beaucoup de morts précoces. Donc elle durera 80 ans et ça va être le siècle de Geneviève, ça va courir tout ce 5e siècle et on va voir que c'est une bénédiction pour le nouveau royaume qui est en train de naître parce qu'elle en a fait la stabilité alors que ce n'était pas du tout gagné au départ. Alors elle a une place stratégique, elle est à la cité de Paris. Alors, juste pour une information, la cité de Paris, c'est la ville de Lutèce, la ville gauloise de Lutèce, qui était habitée par la tribu des Parisii. Et très souvent, enfin longtemps, on parlait de la Lutèce, la ville des Parisii, et peu à peu, cette Lutèce gauloise est devenue Paris au moment où la Sainte-Geneviève, puis le nouveau royaume franc vont s'y implanter, et ça va devenir Paris. Donc, en d'autres termes, Sainte-Geneviève arrive à Lutèce quand elle est jeune et elle meurt à Paris. C'est le même endroit. Donc, elle vit à Paris, elle va vivre une vocation religieuse et spirituelle où elle est à la fois aussi un magistrat et un prophète. On va voir tout ça. Alors, pour essayer de poser tout le cadre, je vais essayer de vous donner quelques détails que vous allez retrouver dans la carte, les repères chronologiques que je vous ai donnés, ainsi que la carte en dessous. Le 5e siècle, c'est un énorme bouleversement, dans tous les sens du terme. C'est le siècle où l'Empire romain est en train, qui est donc c'est a marqué son autorité et sa suprématie pendant des siècles, cet empire romain va peu à peu craquer, dans le sens où il va y avoir une substitution avec tous les peuples dits barbares. Barbares, c'est ceux qui, au sens grec, c'est-à-dire les barbares, c'est pour les Grecs, c'est ceux qui ne parlent pas grec. Donc barbares, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Donc les barbares, pour les latins, c'est ceux qui ne parlent pas latin. Ça ne veut pas dire qu'ils sont un culte illettré, comment dire, forcément. Hein. Mais simplement, ils n'ont pas comme habitude la langue latine et n'ont pas non plus les coutumes. Donc tous ces barbares, entre guillemets, eux, vont être, bon, on les voit sur la carte que je vous ai donnée, là, qui est cette carte des invasions. Ils sont éminemment au nord-est, ils viennent d'Asie, ils viennent du nord, et ce sont ces peuplades qui vont se trouver confrontées à l'Empire romain, d'autant que d'autres peuplades vont les pousser, du genre les Huns, par exemple. Qui va arriver d'Asie, qui vont pousser tous les Vandales, les Ostrogoths, les Visigoths, les Alamans, hop, ils vont les pousser vers l'Empire romain, qui au début va les repousser, et puis va se dire, ah oui, mais j'ai moins de soldats, c'est vrai qu'il y a une dénatalité dans l'Empire romain à ce moment-là, donc j'ai moins de soldats, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais demander à ces barbares, qui sont de vaillants guerriers, de travailler pour moi. Et en fait, c'est ce qui va. L'Empire romain, devant l'arrivée de tous ces barbares, va négocier avec eux et va leur donner peu à peu un pouvoir militaire, mais pas un pouvoir civil. Néanmoins, ces barbares vont accepter ce pouvoir militaire et vont aussi reconnaître le raffinement romain et vont devenir aussi romains. Donc il va avoir deux pôles, le barbare et le romain. Le barbare va se transformer en romain, si je puis dire. Il va parler latin peu à peu. Il va devenir latin, on va le voir avec les paroles de Sainte-Geneviève. Et puis à un moment donné, ça va être l'inverse qui va se produire. C'est-à-dire que le barbare, une fois bien établi, va reprendre sa langue d'origine et le latin va régresser. Voilà, pour faire simple, à peu près. Donc on est à cette frontière-là. Ça, c'est le côté politique. Donc avec toute la culture romaine qui va s'effondrer tout doucement, pas brutalement, mais tout doucement, progressivement. Et les usages et les coutumes barbares qui vont s'imposer, pas brutalement, mais doucement. Et une mentalité autre. On le verra encore une fois pour les parents de Sainte-Geneviève, puisque ses parents sont l'exemple type de cette mutation. L'autre grand séisme, c'est le séisme religieux. Le séisme religieux, tout simplement parce que, bon, comme vous le saviez, la religion chrétienne a été, comment dire, au début, régulièrement acceptée gentiment dans l'Empire romain, vous savez, au début, et puis à un moment donné, tant qu'ils sacrifiaient à l'empereur, il n'y avait pas de problème, sauf que les chrétiens ne veulent pas sacrifier à l'empereur, ni pour cause. Donc, ça va entraîner des persécutions. Et puis peu à peu, comment dire, Constantin, l'empereur Constantin, va finir par reconnaître par l'édit de Milan en 314, eh bien que leur religion chrétienne a sa place dans comment dire, l'empire. Et à moins d'un siècle plus tard, donc en 392, comme je vous l'ai marqué, l'empereur Théodose déclare que la religion chrétienne est la religion officielle. Voilà, donc on passe d'une religion tolérée à une religion officielle. Et on n'a théoriquement plus le droit d'être païen. Ça s'est renversé. Voilà. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que la religion chrétienne, c'est très bien, mais en 325, je vous l'ai mis, eh bien, il y avait un prêtre qui s'appelait Arius, qui avait émis toute une théorie extrêmement intéressante et intéressante en tout cas, comme quoi Jésus était le fils de Dieu, mais au sens symbolique, donc il n'était pas Dieu. Et que l'esprit de Dieu n'était pas l'esprit de Dieu. Donc en d'autres termes, il n'y avait pas de Trinité. Cet arianisme a beaucoup séduit, parce que c'est beaucoup plus facile de croire en un, comment dire, en un seul Dieu avec un grand prophète ou un grand, comment dire, une grande personne, une personnalité comme Jésus, mais qui n'est pas Dieu. La Trinité, c'est compliqué à comprendre. Donc du coup, eh bien, l'arianisme va être combattu par plusieurs conciles. Donc le premier est Nicée, mais on va avoir de nombreuses personnes qui vont essayer de Saint Athanase, enfin les grands-pères de l'Église vont se trouver confrontés à ça. Mais surtout, l'arianisme va toucher déjà l'empereur Constantin, puisqu'on sait que l'empereur Constantin est devenu chrétien, mais il a été baptisé de façon arienne. Il n'a pas été baptisé par un prêtre, enfin, catholique à l'époque, c'est pas ce qu'on entend maintenant, mais il a été baptisé dans l'arianisme, c'est-à-dire que l'empereur Constantin n'était pas censé croire en la Trinité telle que nous la connaissons. Cet arianisme, il va se propager. Et il va se propager notamment dans tous les peuples barbares. Tous les peuples barbares qui vont se. Enfin, et elles vont va se protéger déjà dans l'empereur, chez l'empereur. Il y a plusieurs empereurs qui seront ariens. Dans le clergé, qui va être arien. Ça va être une grande coupure dans la vie chrétienne de l'époque, et tous les nouveaux, les Visigoths, les Ostrogoths, les Burgondes qui vont se convertir au christianisme, vont devenir ariens, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas croire en la Trinité. Et ça, c'est extrêmement important, parce que Sainte-Geneviève, elle est à la frontière. Et Sainte-Geneviève, elle est confrontée à cette distorsion d'un christianisme qui est déjà séparé, parce qu'on ne croit pas à la même chose, on ne croit pas à la Trinité. On est chrétien, mais on n'aime pas les mêmes mots ou les mêmes choses, et ça a beaucoup de conséquences. Et donc, cet arianisme, il faut arriver à le. Comment dire, il y a une lutte pour essayer de le faire disparaître, puisque l'arianisme dénature la foi chrétienne des apôtres, selon Geneviève. C'est pour ça que je vous en parle, c'est vieux, mais ça va être continu. Bon, pour vous donner la fin quand même, parce que comme ça vous saurez, le dernier empereur arien Visigoth, ça date du milieu du 6e siècle. Mais ça va durer entre donc à peu près l'an 300 à 550, pour faire simple. Et ça va vraiment, comment dire, diviser. Alors, juste une petite aparté, l'arianisme, c'est loin, vous me dites. Ben oui et non. Vous avez actuellement une variante de protestantisme qui s'appelle les Témoins de Jéhovah, qui ressemble, qui reprennent l'arianisme en fait. Si vous avez, bon, voilà. Donc on va pas parler de ça, mais dites-vous bien que c'est pas si vieux que ça et que c'est quand même encore très récent. D'accord? Alors ensuite, alors Sainte Geneviève aussi, elle naît, je vous l'ai dit, donc en 420. Alors on a souvent Si on a un petit peu étudié, on a souvent des tas de flashs de l'histoire de l'Église un peu partout, et on se rend compte que ben, par Sainte-Geneviève, beaucoup de choses vont se réunir. Par exemple, déjà la prise de Rome par les barbares, 410, hein, c'est-à-dire que c'est le roi Alaric, qui était un roi wisigoth, va piller Rome. Alors, ça va être déjà un séisme. Déjà, Rome est pillée. Bon, l'empereur n'est pas destitué, il est toujours là, il va à Ravenne, mais c'est déjà quelque chose d'important. Donc, Geneviève n'est pas encore née. En revanche, l'année où elle naît, c'est l'année où décède Saint Jérôme. Saint Jérôme, qui est le traducteur de la Bible en latin, qu'on appelle la Vulgate, parce qu'on vulgarise la Bible en latin, elle était en grec, elle avait les Septante, elle avait l'hébreu, les Septante avant Jésus-Christ, puis la Vulgate par Saint Jérôme. Saint Jérôme qui était donc à Bethléem et qui est mort l'année où Geneviève est née. Donc vous voyez à peu près sur le niveau auquel ça se situe. En 430, donc 10 ans, Geneviève a 10 ans, eh bien un éminent évêque meurt, Saint-Augustin. Saint-Augustin, qui était évêque d'Hippone en Algérie, et qui a subi, lui, des barbares, les Vandales, qui venaient de. Vous voyez sur la carte, ils venaient du nord, et ils sont passés par l'Espagne, et ils sont arrivés par toute l'Afrique du Nord, et ils ont fait le siège à Carthage, et puis aussi en Algérie, et à Hippone, et c'est au cours de ce siège que Saint-Augustin est mort. Voilà. Donc, vous voyez à peu près. Et puis, à la même époque, eh bien, les barbares qui sont de l'Asie, les Huns, donc c'est une tribu nomade, qui ont pour objectif, eux, de non pas de créer une civilisation, non pas qu'ils ne soient pas cultivés. Attila, on en parlera, était quelqu'un de cultivé. Mais leur but, c'est d'avoir des terres. C'est une expansion rapide, un peu comme le feront, si je puis me permettre, les Arabes entre 632 et 732. Ils vont parcourir un peu à la même manière des Huns, c'est-à-dire avec des tribus en petit nombre, plus ou moins grand, et ils vont s'asservir les villes au fur et à mesure avec ce système-là. Donc les Huns, vont arriver, ils vont commencer à. Ils étaient déjà, pardon, depuis un certain temps en Asie, et Attila va décider de faire une entrée en Occident. Alors il faut vous dire que là-dedans, c'est pas forcément en force et par surprise. C'est essentiellement des jeux d'alliance. C'est-à-dire que les Romains vont faire dire aux barbares, je vous donne tel comté, je vous propose telle alliance militaire et en échange, vous aurez une solde ou vous serez payé. Et puis à un moment donné, les Romains n'honorent plus cette dette. Donc, en beau soldat, on va se servir. Bon. Les Huns ont été utilisés par l'Empire du Constantinople au début pour essayer de caler un peu d'autres barbares. Donc ils étaient au service de l'Empire d'Orient, l'Empire romain d'Orient. Et puis à un moment donné, ils vont trouver l'intérêt. Les intérêts vont changer et du coup ils se disent, bon, maintenant on va aller voir en Occident. Donc tous ces peuples barbares sont essentiellement dans des jeux d'alliance, pas forcément de force, mais d'intérêt. Donc. Tu me donnes ça, je te paye ça, je marie avec. Tu me donnes ta fille, tu me donnes une dot, ça marche pas, bon, alors tu respectes pas ton engagement, donc je vais envahir ton région, etc. Donc c'est pas non plus le rouleau compresseur, c'est simplement un jeu de liens, d'accords, comment dire, honorés ou non, qui font que tout va être bouleversé. Sachant que d'autant que l'Empire romain s'affaiblit de plus en plus. C'est pour ça que ça s'écoule. En 451, effectivement, on va le voir, ça va être la grande menace des Huns à Paris. J'en parlerai après. En revanche, en 466, eh bien, naît Clovis. Donc Geneviève a déjà à peu près 40-45 ans. C'est une vieille dame, presque. Donc en fait, toute l'histoire de Geneviève avec Clotilde, la princesse Burgonde et Clovis, c'est des jeunes avec une ancienne, pour vous dire, pour bien montrer que Clotilde, Clovis, quand il va voir Geneviève, il sait déjà qu'elle a eu affaire avec son père, et que son père Childéric avait déjà eu affaire avec elle, l'avait déjà en grande estime, ce qui n'a pas empêché un blocus, enfin, on en reviendra après, mais il y a déjà un passé. D'où l'importance de cette longévité de Geneviève, c'est qu'elle va permettre de faire un pont entre les Francs au sein des Francs. D'accord? Alors, ensuite, comment dire? Voilà, alors ça se termine en gros en 476. 476, c'est ce qu'on appelle la date officielle de la fin de l'Antiquité, la chute de l'Empire romain, c'est d'Occident, c'est-à-dire tout simplement, dans ces cas-là, très souvent, l'empereur, c'était le cas, est un enfant. Le prince, là c'était le prince Odoacre, des Hérules, un prince germain, voit qu'il était allié avec le Romain, il n'a pas reçu ce qu'on lui a demandé, on lui a proposé, donc eh ben, il va déposer l'enfant, il va le renvoyer, et puis il va prendre sa place. Mais là, de façon définitive. Et donc, 476, il n'y a plus d'empereur romain en Occident. Alors, est-ce que vous voyez bien la différence entre l'Occident et l'Orient? Il y a deux pôles, hein, chez l'Empire romain. Il y a Rome, pour faire simple, et Constantinople, la cité de Constantin. À un moment donné, il y a eu deux empereurs, parce que le territoire était grand, dont un à Constantinople, l'autre à Rome. À Rome, l'Empire romain d'Occident, Constantinople, l'Empire romain d'Orient. Et donc, c'est peu à peu, c'est cette rupture ce qui va se faire, et qui fait qu'en 476, il n'y a plus d'Empire romain d'Occident. En revanche, il y a un Empire romain d'Orient qui va devenir l'Empire byzantin, qui va durer jusqu'en 1400, à peu près 1450. peu près, dans ces eaux-là. Vous voyez à peu près, je suis obligée de passer par là pour vous faire un peu d'histoire, pour comprendre un peu tout ce qui se passe et tout le tuilage qui se fait. Et pour montrer encore une fois comment Geneviève est au milieu et qu'elle va arriver à sauver quand même voilà, quelque chose qui était quand même extrêmement périlleux, une période périlleuse, un peuple, une cité, etc. Voilà. Donc, ce paysage, enfin ce fond de tableau ayant été dressé, maintenant je vais m'intéresser un peu plus à la personnalité de Geneviève. Alors, Sainte Geneviève a trois aspects enfin, dans sa personnalité qui sont étroitement mêlés, mais quand même assez particuliers pour être distincts. Les trois aspects, c'est la vocation, l'aspect religieux qui est très particulier. Le deuxième aspect, c'est l'aspect de la filiation aristocratique, puisque elle n'est pas née, c'est pas une Romparanée, c'est pas une sainte bergère au sens où on pourrait le penser maintenant. Et la troisième partie, c'est son action politique en tant que femme politique. Elle vit dans la cité, elle a une action dans la cité de Paris, et donc à ce titre, elle a un titre de magistrat, on va le revoir, et donc elle a une vie politique réelle et un impact sur la vie politique. Donc ces trois aspects-là je vais les développer. Alors, tout d'abord, sa vie religieuse particulière, sa vocation particulière. Alors, Sainte Geneviève, est née à Nanterre, hein, vous voyez, donc à l'ouest parisien. C'est une ville, à l'époque, c'est une ville qui est assez peuplée, peut-être plus que Lutèce. Hein, les découvertes archéologiques ont fait comprendre que Nanterre n'est pas une petite banlieue telle qu'on pourrait la penser maintenant. C'est quand même quelque chose d'important. Elle est née à Nanterre et on l'a dit bergère, parce qu'en fait simplement elle s'occupe ou elle est associée au troupeau de ses parents, qui ont énormément, parce que ses parents, on va le voir, sont des gens extrêmement aisés, une certaine aristocratie, et elle, à ce titre, elle est bergère, un peu comme, alors pour ceux qui sont rambouillés, il y a un certain évêque de Chartres, qui s'appelle Saint Lubin, qui est notre patron, qui était lui aussi berger au VIe siècle, donc le siècle d'après, et ben c'est pareil, il n'est pas berger en tant qu'analphabète avec trois moutons, il s'occupe des troupeaux de son père, qui en a beaucoup, et il va vouloir apprendre à lire par des moines, et c'est son père qui va le pousser. Voilà. Donc le terme de berger, il faut bien attention pas le prendre au pied de la lettre comme on l'entend maintenant. Donc, Sainte Geneviève est donc chez ses parents, et elle a une vocation religieuse très précoce, puisque elle est pieuse, nous dit-on. On a sa vie qui a été racontée, on a la chance, parce que sa vie nous a été racontée à peu près 18 ans après sa mort, sous la demande de Sainte Clotilde. Donc on a vraiment quelque chose de proche. Et donc c'est une enfant qui est pieuse, et un jour, elle voit arriver deux évêques très connus, qui étaient à l'époque Saint-Germain d'Auxerre, l'Auxerrois, et Saint-Loup de Troyes, deux évêques qui étaient de passage à Nanterre pour partir en Angleterre, pour aller combattre une nouvelle hérésie qu'on appelle le pélagénisme. Celle-là, c'était le pélage, c'était il n'y a pas de, comment dire, l'homme n'a pas besoin, il n'y a pas de péché originel, et l'homme se débrouille par lui-même, il n'a pas à ressentir la faiblesse du péché originel. C'est une sorte de péché d'orgueil, un peu comme on pourrait associer ça, le bon sauvage, l'homme est bon naturellement, c'est l'environnement qui le pervertit. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est aussi une hérésie qui a marqué, et en Angleterre. Donc Saint-Germain, Saint-Loup, passe à Nanterre pour aller partir en Angleterre, pour essayer de mettre les choses au point, et il s'arrête et il rencontre, ils sont inspirés par l'esprit, et ils rencontrent Geneviève, cette jeune fille, 9 ans, et là, il y a, sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, Saint-Germain lui demande, est-ce que tu ne voudrais pas te consacrer à Dieu? Il y a un appel très fort, que la jeune fille reprend, la fillette reprend en disant, oui, c'est mon vœu le plus cher, et donc il y a toute une cérémonie qui est assez codifiée, où il va lui proposer de se consacrer, et va lui-même prendre une pièce par terre en bronze avec la croix dessus, puisque sur les pièces il y avait déjà la croix, et lui dit, tu ne prendras pas, est-ce que tu t'engages à ne pas prendre d'autres bijoux que cette pièce de bronze avec une croix gravée dessus? La petite fille répond, oui, je m'engage, et ça répondait à un souhait très particulier. Et donc, et très vite après, elle va demander à prendre le voile des vierges consacrées. Alors, les vierges consacrées, à cette époque-là, il n'y a pas encore de monastère de femmes. Hein. Je rappelle que Saint-Benoît, il y a les monastères d'hommes, avec Saint-Antoine. Saint-Benoît, hein, c'est dans le 6e siècle, c'est un siècle après. Donc, les femmes sont consacrées. C'est un privilège et quelque chose de très particulier à l'Église chrétienne. Ça n'existe pas ailleurs. Il n'y a pas de femme consacrée vierge chez les Hébreux, et puis même chez les Grecs. Les Vestales n'étaient pas forcément consacrées à rester vierges toute leur vie. Là, c'est vraiment une particularité chrétienne des femmes qui veulent être vierges sans forcément être sous la domination d'un homme, surtout en Israël. Là, c'est un peu différent, on va voir. Donc, elle s'engage, elle reçoit le voile des vierges consacrées. Et puis elle va rester chez elle, puis plus tard à Lutèce elle aura des compagnes, mais c'est pas un couvent, hein, comme on entend. Et par la suite, elle va même devenir diaconesse. Alors, diaconesse, c'est un statut qui a beaucoup eu lieu dans les débuts de l'Église, qui n'a pas, enfin il faut bien préciser que ça n'est pas un diacre au féminin. La diaconesse dans l'ancienne église, l'église primitive, pardon, c'est un pouvoir institué et non pas ordonné, c'est-à-dire qu'elles ne reçoivent pas de sacrement, à l'inverse des diacres masculins. Simplement, elles ont une délégation particulière, elles sont bénies, il y a un geste de la main qui les bénit, mais qui n'a pas de sacrement, enfin il n'y a pas l'imposition par l'esprit. Un geste qui les bénit et elles reçoivent ainsi la faculté. D'abord déjà pour les baptêmes, hein, parce que souvent les baptêmes autrefois se faisaient à cette époque-là par immersion. Or quand les femmes adultes étaient en immersion, il y avait une phase un peu délicate devant l'évêque ou les prêtres, et donc c'était aux diaconesses qui avaient cette charge de s'occuper de ces jeunes baptisés pour pouvoir les emmener, s'habiller, revêtir, rentrer en noir, elles sortaient en habillées de blanc, donc par pudeur et par délicatesse, c'était les diaconesses qui s'en occupaient. De même, les diaconesses avaient le pouvoir d'instruire les femmes, donc un pouvoir d'instruction. Mais ça s'arrêtait là. Bon. Mais comme il y avait justement une difficulté, l'Église avait tendance à cette époque-là à mettre un peu la pédale douce, pardonnez-moi, sur les diaconesses en règle générale. Sauf que Saint Germain l'Auxerrois, il le sait très bien, mais il y a urgence. Il voit bien qu'on est en train de bouger, et il voit une femme qui est formée, qui est dans le sens qui a une connaissance de Dieu, qui a une connaissance mystique, donc lui, il l'ordonne diaconesse. Il la nomme diaconesse, il l'institue diaconesse. Et donc, elle est considérée comme diaconesse au sein de l'Église, même si certains vont le voir d'un mauvais œil. Vous voyez à peu près ? Elle est diaconesse, elle a, bon, pour quelque chose de très très pratique, qui vous semble, elle a la clé du baptistère de la cathédrale de Paris. À cette époque où tout le monde ne pouvait pas forcément rentrer dans le baptistère. Et elle va s'en servir pour faire prier les femmes dans les moments difficiles. Voilà, ça c'est... Alors, cette Geneviève, donc, elle est diaconesse, elle est prophétesse, c'est-à-dire qu'elle va avoir une vie mystique assez forte qui va l'amener à prévoir, enfin prophétesse dans le sens où sentir des choses qu'il faut faire ou ne pas faire, pas prédire l'avenir, hein, mais sentir des choses qu'il faut faire ou pas faire. Ça va être le cas dans le siège de Paris, où elle va dire aux hommes, ne partez pas, parce qu'elle avait des raisons, et plus certains diront l'Esprit Saint, d'autres de l'intuition, enfin elle a un don de prophétie dans ce sens-là. Donc elle est connue et respectée pour ça, surtout à une époque où le spirituel est très fort. Je m'explique. On reconnaît à un homme ou une femme ce rôle de lien particulier avec Dieu. On le reconnaît d'autant plus que le roi franc a aussi ce lien. C'est-à-dire qu'un roi franc, il a un dieu. Il a une liaison avec Dieu, c'est pour ça qu'il est roi. Et que s'il ne fait pas ce qu'il faut pour que son dieu soit avec lui, c'est-à-dire qu'il perd des batailles, et il y a des mauvaises récoltes, eh bien, il est mis en doute. Il a l'obligation de résultat en tant que roi, si je puis dire. D'où le terme qu'on verra plus tard de roi fainéant. Hein, c'est pas qu'il faisait rien, mais simplement, il y avait, visiblement, il y avait des mauvaises récoltes, visiblement, il y avait des désordres dans la société. Il ne faisait pas leur travail de roi, qui est de faire ce qu'il faut, parce qu'il pourrait être en lien avec leur dieu et assurer le bonheur de leur peuple. Voilà. Donc ça veut dire qu'à cette époque-là, eh bien, le lien entre la personne et le dieu est très fort. Donc une femme prophétesse, c'est aussi très respecté. Ah, je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait dire la même chose, mais je ne pense pas. Mais pour bien me rappeler à ce moment-là, c'est très important. Alors, Geneviève est prophétesse, elle a aussi une vie mystique très grande. Hein, c'est quelqu'un qui a, par exemple, le don des larmes. Donc, vous allez me dire, certains peuvent ne pas comprendre ce que c'est que le don des larmes. Le don des larmes, c'est un don de l'esprit où on pleure. Alors, on pleure, mais en tant que, de façon bienfaisante, de façon, comment dire, dans une prière particulière. Et on le sait parce que à un moment donné, elle est en prière pour un moment de quelque chose d'important, et l'évêque Saint-Germain d'Auxerre s'approche et voit la terre baignée de larmes, et il comprend que c'est ça, qu'elle est en train de. Elle est en prière particulière et reçoit ce don. On retrouve ce don, ce genre de charisme beaucoup maintenant, dans certaines assemblées charismatiques, on redécouvre un peu ça, mais là-bas, à cette époque-là, c'était des choses qui étaient connues. Alors, elle jeûne 5 jours par semaine, hein, pas de viande, ni de poisson, ni de boisson fermentée. Hein. Sauf à la fin de sa vie, elle acceptera du poisson, parce qu'elle commençait un peu à faiblir, et les évêques lui ont demandé de prendre un peu, d'améliorer son ordinaire. Elle prend uniquement du pain d'orge et des fèves cuites à l'huile. Donc, c'est quelqu'un de très austère, et qui va opérer aussi de nombreux miracles. Régulièrement, tout au long de sa vie, elle va avoir des miracles, mais à chaque fois de délicatesse. Une petite fille, une petite fille qui meurt, la servante d'une de ses compagnes, à chaque fois. Et puis, bon, elle va avoir des miracles sur les gens de son entourage, plus tous ceux qu'elle va faire, notamment quand il va manquer d'eau lors d'une construction pour la basilique Saint-Denis. Enfin, tous les miracles qu'on retrouve à cette époque-là, où il y avait... quand elle va distribuer aussi du pain et du blé aux Parisiens qui sont en famine, il va toujours y en rester aussi malgré la demande pressante par rapport aux provisions. Voilà. Donc il y a toujours ce côté de thaumaturge qu'on appelle guéri, mais qui est lié avec sa vie mystique.
Elle n'a pas guéri sa mère qui était aveugle.
Comment?
Elle n'a pas guéri sa mère qui était aveugle.
Alors voilà, aussi. Alors ça, j'en parlerai. Bon, je peux en parler aussi. J'en parlerai avec ça. Bon, je peux en parler. Non, déjà.
C'est zut, elle a passé ça.
Voilà. Bon. Comment dire Bon, j'en parlerai après, pardon. Donc juste, elle crée un couvent, quand même, avec ses deux compagnes. Mais c'est un couvent dans le sens où c'est plus une communauté de vie. Hein, dans le sens. Elle s'appuie constamment sur des évêques. Alors, ce qui est très surprenant, c'est que pendant que Geneviève est à Paris, donc à Vestil, devient magistrat à Paris toute sa vie, les évêques sont un peu transparents, on n'en parle pas. Il y en a, mais on n'en parle pas. Alors, non pas qu'elle ait remplacé l'évêque, parce que c'est pas possible, mais sa personnalité a éclipsé visiblement les évêques. Mais elle a toujours le souci d'être en église, et à chaque fois qu'elle a une difficulté, elle a toujours un évêque qui va la soutenir. Alors, son grand évêque, c'est évidemment Saint-Germain l'Auxerrois, qui va intervenir plusieurs fois dans les moments où elle est en situation de fragilité ou de difficulté par rapport à la population, par rapport à des attaques qui sont contre elle. Il va intervenir de différentes manières, même après sa mort, où elle est menacée au moment du siège de Paris, et un archidiacre va venir avec des cadeaux de Saint-Germain pour elle. Même si Saint-Germain est mort depuis quelque temps, mais il a gardé ça, et il arrive au moment voulu d'Auxerre, il y a 3 jours de bateau, hein, pour pouvoir lui donner, montrer aux autres que Saint-Germain la tient en estime et qu'il n'est pas question qu'on la tue, qu'on la lapide, comme c'était prévu pour certains. Donc il y a toujours, elle est sous le rôle d'un évêque. C'est pareil, elle va, avec Saint-Rémy, évêque de Reims, elle va travailler avec lui pour Clovis, pour le baptême de Clovis, travailler le baptême de Clovis avec Sainte-Clotilde aussi. Et puis un évêque qui est mort avant, mais avec lequel elle va beaucoup faire, c'est Saint-Martin, qui a évangélisé la Gaule un siècle avant. Et elle va tout faire pour essayer de, pas pour essayer, pour relancer le pèlerinage sur le tombeau de Saint-Martin à Tours. Elle va même y associer Clovis, Clotilde, et ça va être un point de départ pour la conversion de Clovis. Alors elle a aussi des choses amusantes, c'est que vous savez, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les nouvelles vont vite dans le monde. Et on a une anecdote assez amusante pour vous la rappeler, c'est un ermite en Syrie qui s'appelle Saint-Siméon le Stylite. Les Stylites, vous savez, c'était des ermites qui, au lieu d'être dans un ermitage, se mettaient dans une colonne, construisaient une colonne de 15 mètres de haut, avec une espèce de cellule d'un mètre carré, un ou deux mètres carrés, pas plus. Ça, c'est mieux, on ne peut pas s'allonger. Et c'était une sorte d'ascétisme à l'époque où c'était il y avait vraiment je ne vais pas dire une course à l'ascétisme, mais une volonté d'ascèse très très forte. Et donc les stylites en faisaient partie. Et ça, Simon le stylite, lui, il était au début dans une grotte, et puis tout le monde venait le voir, donc il est parti sur sa colonne de 15 mètres de haut, mais il bavardait avec les gens quand il voulait. Et bien on sait qu'il l'a interpellé, et dites-moi, que devient Geneviève de Paris, il est en Syrie, hein, que devient-elle mais écoutez, si vous allez à Paris, vous me transmettrez toutes mes salutations par respect pour elle. Enfin. Donc Saint-Siméon le Stylite, dans son ermitage sur sa colonne, connaissait Geneviève. Donc pour vous montrer que dans l'église, il y a... contrairement à ce qu'on peut croire, les voyages à cette époque-là, les nouvelles circulaient beaucoup. Voilà. Alors, donc ça c'est ça c'est donc tout cet aspect religieux. Bon, elle a aussi construit des basiliques. Elle a le souci de construire des pèlerinages. Les pèlerinages dans une Gaule qui se termine dans un nouveau royaume qui est en train de s'émerger, il faut des points d'ancrage. Et des points d'ancrage, c'est notamment la construction d'une basilique sur le tombeau de Saint-Denis. Saint-Denis est mort pas très loin d'ici, hein, Montmartre, Mont des Martyrs. Donc, il a été enterré à Saint-Denis, enfin, ce qui est devenu Saint-Denis. Et donc, Sainte-Geneviève a tout fait pour construire une basilique à Saint-Denis. Et il est allé en pèlerinage, j'en parlerai après. Et puis, elle a également, à la fin de la vie, construit une église qui s'appelle Saint-Pierre-Saint-Paul, sur la montagne Sainte-Geneviève, Saint-Pierre-Saint-Paul, qui est une basilique qui n'existe plus, mais il reste un vestige, qui est une tour, qui s'appelle la tour Clovis, qui est dans l'enceinte du lycée Henri IV, et qui est tout derrière le Panthéon, qui s'appelait autrefois Sainte-Geneviève, pour vous montrer que tout est relié. Voilà. Et donc, elle va stimuler le pèlerinage à Saint-Martin. Alors, Saint-Martin de Tours, c'est très important. Pourquoi? Parce que, en fait, Saint-Martin à Tours est la limite supérieure des Visigoths ariens. Les Visigoths ariens sont arrivés jusqu'à Tours. Et il y a le tombeau de Saint-Martin, et Sainte-Geneviève renforce les liens du pèlerinage avec Saint-Martin, parce qu'elle veut que la foi arienne et les Visigoths s'estompent, faire triompher la foi chrétienne vraie, la foi de Nicée, par rapport à la foi arienne qui est encore très proche. Voilà. Donc elle fait ça avec beaucoup d'intérêt. Alors, deuxième aspect, sa filiation aristocratique. Alors, Sainte-Geneviève, en fait, on la présente comme bergère, mais en fait, ses parents, qui se nomment Géroncia pour la mère, et Sévère pour son père, en fait, ce sont un couple, elle est sans doute romaine, et lui est un officier franc, romanisé, converti. Donc, à ce titre, elle va bénéficier à la fois des usages romains, des usages romains, pardon, qui vont lui permettre, par exemple, de. Elle est la seule fille. Hein, je ne rentre pas dans les détails de la vie de Sainte-Geneviève, je pense que vous l'aurez par ailleurs, mais elle est la seule fille, elle est l'héritière. Or, pour les Romains de cette époque-là, depuis, eh bien, elle doit relever la charge de son père, qui est magistrat à Paris. Donc ça, à ce titre, même si elle est fille, même si elle est femme, ça ne gêne pas. À cette époque-là, ça ne gêne pas. Donc, à ce titre, elle est l'héritière de son père, et c'est à ce titre qu'elle va devenir un des grands magistrats de Paris. Donc, elle a toute la légitimité pour l'être. Donc déjà, c'est déjà énorme. Sa mère, alors elle s'appelle Génoféfa, parce que c'est un nom sans doute franc, qui veut dire « née d'une femme ». Vous allez me dire, c'est évident, ce n'est pas un pléonasme. C'est parce que chez les Francs, la filiation se fait par les mères. C'est une civilisation matriarcale. Donc elle a aussi tout ce qu'il faut pour pouvoir apposer sa marque matriarcale féminine dans le pouvoir. Donc elle cumule les deux. Vous voyez ? Alors, pour un détail, effectivement, sa mère a un caractère un peu acariâtre, un caractère fort, et quand elle apprend que Geneviève va devenir vierge consacrée, ça ne fait pas du tout son affaire, donc elle voulait autre chose pour sa fille, et on raconte qu'un jour où Geneviève lui demande d'aller à l'église une fois de plus, elle s'énerve et lui donne une claque. Et du coup, elle devient aveugle. Et c'est Geneviève qui, par sa prière, régulièrement, jeune encore, va prier et va guérir la cécité de sa mère. Donc, c'est partie de ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, alors, Geneviève est donc magistrat. Elle a une statue. Elle hérite d'une fortune. Elle hérite de terre dans l'aube. C'est-à-dire qu'elle a des moyens. Elle n'est pas obligée de vivre de la mendicité. Sauf que elle va utiliser tout cela pour le peuple dont elle a d'une certaine partie la charge. Et on va la voir plusieurs fois, elle va monter des expéditions à ses frais, en bateau, pour aller chercher du blé dans l'état de l'aube, pour distribuer sur ses terres à elle, le blé, et pour le distribuer, le vendre ou le donner aux pauvres. Mais elle le peut parce qu'elle a la fortune. Elle est libre, si je puis dire. Et donc, vis-à-vis des princes et des notables, elle est de plein pied. Elle n'a rien à prouver, elle est ce qu'elle est, et c'est ce qui fait qu'elle va pouvoir, d'emblée, pouvoir parler avec les princes, les rois. Elle a toute la légitimité qu'il faut. Voilà. Et donc, elle n'a pas de famille à promouvoir, elle n'a pas de poste à sauvegarder, elle est libre. Donc, elle peut faire de la politique, si je puis dire, sereinement et en harmonie avec sa vocation religieuse. Alors cette action politique, on y arrive, eh bien, on l'a vu, donc elle va acquérir la confiance des princes. Le roi Childéric, le père de Clovis, va beaucoup l'aimer, même s'il ça ne va pas le gêner de faire le siège de Paris pour d'autres raisons, mais ce n'est pas pour elle. Elle va avoir une grande connivence avec la reine Clotilde, qui est la princesse burgonde. Les Burgondes, ce sont vous regardez sur la carte, ils sont les ancêtres des Bourguignons, hein, Burgondes-Bourguignons. Ils sont ariens, enfin ils sont devenus ariens, pas Clotilde, son oncle est devenu arien. Et Clotilde rêve d'une chose, c'est que de donner à son mari la vraie foi, d'abord le convertir et dans la vraie foi. Et donc Geneviève va être là, elle est sur le même pied d'égalité, elle parle en sœur. Elle a effectivement, en tant que femme politique, le sens de l'organisation. Donc on monte une expédition, eh bien je le fais, et j'organise, je donne des ordres. Je demande de créer, de construire la basilique, une basilique sur le tombeau de Saint-Denis, c'est très bien. Je m'arrange pour trouver les pierres. Il y a des pierres là, ben c'est très bien, les pierres elles sont déjà utilisées, mais comme on faisait autrefois, tout le temps, on reprend les pierres, elles sont là, vous les transportez. Des fours à chaud, il n'y a pas de four à chaud, vous savez, la chaud pour remplacer le ciment. Ah ben elle entend dire qu'il y a des porchers qui, en discutant, avaient trouvé dans leur bête des fours à chaud. Très bien, elle fait suivre la formation. Vous allez là-bas, il y a des fours à chaud, vous avez ce qu'il faut pour faire votre chaud. Donc c'est quelqu'un qui est une maîtresse femme. Donc elle a ce sens de l'organisation, cette volonté, cette autorité, mais toujours dans la foi chrétienne. Et d'ailleurs, entre parenthèses, puisqu'il faut une basilique, eh bien, il faut de l'argent, donc on va lever un impôt. C'est pas gênant. On lève un impôt en tant que magistrat de Paris, parce qu'elle fait partie du conseil municipal. Eh bien, il faut lever un impôt, on va le faire. Ouais, donc vraiment très pragmatique, juste politique. Alors l'apothéose quand même de Geneviève, c'est le baptême de Clovis, en tant que femme politique. Hein. Vous savez que vous avez alors Clovis, je passe très vite, hein, un jeune prince païen, qui est déjà sensible à la foi chrétienne par ce qu'il voit, qui voit les autres princes païens, les autres princes barbares qui sont devenus chrétiens mais ariens, qui se pose la question, et il se pose la question en juste titre, il a un devoir vis-à-vis de son peuple. Est-ce que si je change de Dieu, eh ben, est-ce que ça va marcher? Est-ce que les dieux vont avec moi? Est-ce que le nouveau dieu de Clotilde va être avec moi? Parce que si ça ne marche pas, mon trône, je perds mon trône. Enfin, c'est un peu pragmatique, mais c'est ça. Donc, le mariage de Clovis, la conversion de Clovis, elle se négocie dès le mariage avec la princesse Clotilde, qui a été arrangée aussi par Geneviève et Rémy. Ils ont tout fait pour que la jeune Clotilde, qui est d'ascendance lettonne, puisse rencontrer ce prince et travaille à sa conversion. Donc, et cette conversion, ben, on la connaît, ça va être lent, il va voir, il va accepter des baptêmes de ses fils, alors qu'il pourrait très bien dire non, mais c'est la femme, hein, c'est la femme, la Franque, qui décide le baptême, donc il accepte, même s'il n'est pas content parce que son premier fils meurt, enfin, je vous passe les détails, mais il va accepter les décisions de sa femme. Et puis lui, eh bien, il va hésiter. Il va, comment dire, il va déjà avoir une bataille décisive à Tolbiac, hein, qui est près de Cologne. Tolbiac en 496, où là, on a la fameuse phrase, voilà, où Dieu de Clotilde, si tu me donnes la victoire, je croirai en toi et je me ferai baptiser. Puis il gagne. Bon. Il va à Saint-Martin, amené par Clotilde et Geneviève. Il est complètement bouleversé par ce qu'il voit. Et là, on pense qu'il prend la décision. Et donc, en 499, hein, c'est un peu flou, mais c'est 499, il demande le baptême par Saint-Rémy, qui reçoit par Saint-Rémy à Reims, avec 3000 guerriers. C'est pas son armée, c'est sa garde personnelle. Parce que vu le contexte, il voulait que, quand même, que sa garde personnelle puisse le protéger en cas de... Donc c'est pas un peuple, puisque c'est une démarche personnelle. Voilà. Voilà. Donc, la troisième... Et c'est pour ça, d'ailleurs, entre parenthèses, que à ce titre-là, que la France est appelée fille aînée de l'Église, puisque c'est la première fois qu'il y a un prince païen se convertit à la foi romaine et non arienne. C'est là... cette fameuse fille aînée de l'Église, ce terme-là qui a été prononcé plus tard. Donc c'est très important, ça a été le basculement dans l'histoire de l'Occident et de la France. Voilà, donc excusez-moi, je regarde. Alors, je passe maintenant... à la dernière partie qui est Clotilde et Paris. Donc Clotilde, on l'a vu, Clotilde, Geneviève et Paris. En 451, les Huns menacent Paris. Clotilde dans la prière, c'est plusieurs... Geneviève dans la prière, c'est plusieurs choses. Je rappelle qu'elle est magistrat, que son père était officier, donc elle a tout son réseau dans les militaires. Elle sait que Attila veut aller vers le sud-ouest pour combattre les Visigoths, vous voyez, qui sont plutôt vers l'Espagne, qu'il va descendre et qu'il ne va pas passer par Paris. Elle le devine, enfin, elle le sait par ses conseillers militaires et elle le sait aussi dans la prière. Or, tout le monde s'affole. Parce qu'Attila, c'est vrai que c'est pas forcément, enfin, c'est quand même terrible, faut pas de cadeau. Tout le monde s'affole et les hommes surtout. Or, son but, c'est qu'il quitte Paris. Non pas pour quitter la défense, mais parce qu'elle veut pour éviter pour craindre un manque de défense, mais parce qu'elle sait que si toutes ces familles qui vont partir en exode sur les routes vont tout perdre. Or, elle sait pertinemment qu'ils ne passeront pas à Paris. Et elle va faire prier toutes ces femmes dans le presbytère, entre autres, dans le baptistère, pardon, pour que, justement, les hommes restent. Les hommes vont vouloir la tuer, vont vouloir la lapider, vont faire un complot. Et c'est à ce moment-là que Saint-Germain intervient par son archidiacre. Il dit, mais vous êtes fous, vous n'allez quand même pas... Vous n'allez pas la mettre dehors, vous n'allez pas la tuer, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Et ils vont retourner tous les hommes, et à ce moment-là, effectivement, les hommes vont rester à Paris, et comment dire, la ville sera épargnée par Attila. Alors, c'est à la fois par sa prière, mais aussi par sa prophétie, pas aussi par sa connaissance. Voilà. Mais il a fallu qu'elle gère un conflit. Donc, je ne joue pas Attila, est passé au sud, il est passé par Orléans, mais il s'est arrêté et il va t'arrêter à Chalon-sur-Saône la même année, au champ catalonique, si ça vous dit quelque chose. C'est la grande coalition de tous les rois barbares contre Attila, qui va être vaincu, il va mourir tout de suite, mais il est vaincu. Et donc il va repartir vers l'Est. Voilà. La deuxième fois où Sainte-Geneviève va être très forte avec Paris, c'est précisément avec les Francs. C'est-à-dire que les Francs chilbériques. Entre 476 et 486, vous regarderez cela. C'est-à-dire que le roi franc, Childéric, est confronté à l'ancien général romain qui vit encore, qui s'appelle Syagrius, et Paris est au milieu. Paris, c'est la frontière. Et donc, pour éviter que Syagrius soit ravitaillé par la Seine, blocus de Paris, pendant 10 ans. Une fois avec Childéric et une fois avec Clovis. Et là, elle va aménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire qu'elle va rester en bon terme avec Childéric, en bon terme avec Clovis, et en même temps, elle va tout faire pour pouvoir ravitailler les Parisiens en remontant la Seine, en faisant revenir des cargaisons de blé, pour que les Parisiens puissent vivre et survivre à ce blocus. Voilà. C'est pour ça qu'elle est aussi... Alors, je terminerai rapidement par la suite. La chasse de Geneviève est, comment dire, elle est morte, elle est enterrée à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, qui deviendra l'église Sainte-Geneviève, puis à côté du Panthéon, qui n'existe plus maintenant, c'est le Panthéon. Et elle va continuer de protéger Paris, plus ou moins, mais en tout cas les lieux saints des abbayes vont toujours être protégés, notamment des invasions vikings et puis des multiples invasions et autres conflits qui auront lieu. Sauf qu'à la Révolution, tout a été, la chasse, l'abbaye a été détruite et donc maintenant la chasse est à cet Saint-Étienne-du-Mont à côté. Voilà. Saint-Étienne-du-Mont. Voilà, c'est une chasse reconstituée parce que... Voilà, donc pour terminer rapidement, donc femme exceptionnelle, Sainte-Geneviève, une vierge consacrée certes, mais qui est aussi diaconesse, prophétesse et qui est dans le monde. Sur le plan politique, elle est fille d'officier, franc romanisé, magistrate, mais elle va occuper en fait tout le vide inquiétant après la chute de l'Empire. Elle va être là. C'est une arbitre. Elle va, en toutes les factions politiques, elle va réussir à faire l'arbitrage, à ménager la chèvre et le chou en tout honneur, et à tout faire pour qu'il y ait une paix, et surtout garder l'équilibre avec les différentes ententes. Elle est catholique romaine, anti-arienne, et donc elle va privilégier la lutte pour l'Église, pour la foi de l'Église. Elle devient la protectrice du roi, elle lègue un programme chrétien à la monarchie. On peut dire un mot qui la résume, c'est l'unité. Geneviève fait l'unité dans ce siècle.